Chapitre 20. Jacques est mort. Quelques minutes plus tard, après que chacun s'en fût allé se coucher, laissant à Lydia le soin de veiller sur le petit François, à qui l'on avait administré un calmant, Fanny vint rejoindre son mari. Elle le trouva dans sa chambre, prostré au fond d'un fauteuil, les coudes aux genoux, la tête entre ses poings, les yeux fixes. « Ne vous frappez pas, darling, lui dit-elle en lui donnant une tape sur l'épaule. « Allons, Jack, réveillez-vous, vous aussi de ce mauvais rêve. J'ai interrogé la petite Germaine, et je sais maintenant la vérité sur la blessure à la tempe. « Ah, eh bien, soupira Jack en levant vers elle un visage effaré, comme elle ne lui en avait jamais vu. Eh bien, c'est Germaine qui avait raconté à son frère le détail de la blessure à la tempe. Et elle connaissait elle-même ce détail pour avoir écouté aux portes tantôt à son retour de promenade avec Lydia. Elle est venue jusqu'ici pour avoir des nouvelles de son frère et elle a entendu Madame Saint-Firmin qui vous faisait part de ses apparitions. Elle ne put se retenir dans la soirée d'en parler à François, car la conversation qu'elle avait surprise venait corroborer les histoires insensées de cette autre folle d'institutrice. C'était donc à Madame Saint-Firmin que le mort avait parlé et était apparu. Et Madame Saint-Firmin racontait que le mort avait une blessure à la tempe. « Y êtes-vous maintenant ?» Et elle ajouta, « Quand on voit l'effet que les imaginations de Madame Saint-Firmin produisent sur un homme comme vous, Jack, on ne doit pas s'étonner qu'un petit garçon qui a failli être asphyxié par le gaz dans la journée ait des cauchemars le soir, croit avoir des fantômes la nuit et pousse des cris comme si on l'égorgeait. Mais voici tout rentré dans l'ordre encore une fois, Dieu merci. Mais nous partons toujours demain, implora Jacques, qui avait écouté les explications de Fanny avec le soulagement visible d'un homme qui, ayant failli étouffer, retrouve le libre jeu de ses poumons. Oui, nous partirons, et nous emmènerons non seulement Jaco, mais encore François et Germaine. Il faut soustraire les enfants à tous ces ridicules souvenirs. Quand ils seront débarrassés de Mademoiselle Hélier, éloignée de la Saint-Firmin, ils ne penseront plus à leurs fantômes, et il faut espérer que nous ferons comme eux. Ici, nous étions tous en train de devenir fous. Moi-même, je me sentais influencé. Je devenais comme vous, Jack. Le moindre mot que je ne pouvais expliquer sur le champ prenait des proportions surnaturelles. C'est comme ce bruit dans le couloir, le craquement que nous avons entendu. Écoute, pour Dieu, écoute. Il s'était dressé de nouveau. Il lui avait saisi le poignet. Il la maintenait immobile pour qu'elle écoutât elle aussi, et il paraissait plein d'horreur de ce qu'il entendait et de ce qu'elle n'entendait point. Elle voulut le rassurer immédiatement. « Mais je n'entends rien. Jacques, je t'en supplie, calme-toi. Je n'entends rien, il n'y a rien. » Il resta encore un instant aux écoutes, puis sa main desserra son étreinte et Fanny retira son poignet endolori. Alors il la regarda et elle fut épouvantée de l'horreur qu'elle lut dans ses prunelles et il lui dit dans un souffle « Tu n'as pas entendu un bruit de chaîne ?» Elle secoua la tête. « Un bruit de chaîne » continua-t-il qui se traînait doucement sur le parquet. « Mais où ?» « Ah, voilà ce qu'il faudrait savoir, bruit de chaîne qui se traînait autour de nous, quelque part. »« Mais quelque part dans ton oreille, Jacques, dans ton oreille, seulement dans ton oreille et dans ton cerveau. »« Oh, prends garde à toi, prends garde à toi. Cette Marthe nous aura apporté ici la folie si ça continue. Oh, Jacques, prends garde à toi. » « C'est vrai, dit Jacques en se passant la main sur le front. Il faut faire attention à soi. Il faut pas devenir fou. Mais il tressaillait au moindre bruit. C'est ainsi que le son de la petite pendule de boule qui sonnait 2 heures du matin dans le boudoir le fit frissonner. Ce que tu as cru entendre, dit alors Fanny, c'est certainement le déclenchement du ressort qui se produit toujours quelques instants avant qu'elle sonne. C'est bien possible, répondit-il, mais ça ne ressemblait pas du tout à ce bruit de déclenchement. C'était comme une chaîne que l'on traîne à son pied. Oui, oui, je sais ce que tu vas dire, encore une illusion. C'est bien possible. Je te dis que c'est bien possible. Tout est possible maintenant. Maintenant que je ne peux pas me débarrasser de cette idée qu'elle a amené le fantôme avec elle dans le château et qu'elle est repartie en nous le laissant. Oui, il me semble qu'il est là, qu'il nous voit, qu'il nous écoute et qu'il s'amuse à nous épouvanter avec son bruit de chaîne. Mon Dieu, où allons-nous? Où allons-nous? Si tu crois à la réalité du fantôme, soupira Fanny. Je ne te dis pas que je crois à la réalité du fantôme. Je n'en suis pas tout à fait là. Mais une idée de fantôme dont on ne peut pas se débarrasser, c'est aussi réel que le fantôme lui-même, vois-tu, puisque déjà je l'entends. Alors j'ai la terreur atroce de le voir. Et qu'est-ce que ça me fait que le fantôme ne soit pas réel si je le vois, si je le vois moi réellement? Pour moi, il ne peut pas être plus réel. Je te dis qu'André ne me quitte plus. J'ai entendu la chaîne qu'il traîne à son pied tout à l'heure. Je l'ai entendu aussi bien que Marthe a pu l'entendre. Mais je t'affirme, ma chérie, je te jure, que si je vois André comme elle le voit, elle, avec sa blessure à la tempe, eh bien j'en mourrai. Oh, cela, je ne pourrais pas le supporter. Non, non, je ne le pourrais pas. Elle ne lui répondit même point, tant elle était anéantie de le voir réduit à cet état. Et il y eut entre eux un effrayant silence, tout rempli de la présence du mort. Et tout à coup, au loin, dans la nuit, les chiens se mirent à hurler à la mort. C'était une lamentation si lugubre, un hurlement si sinistre, une plainte si désespérée, une douleur si humaine, dans la gorge des bêtes, la gueule tendue vers la lune, que Fanny elle-même en eut la sueur au front. Ils se prirent tous deux leurs mains moites et ne se lâchèrent que lorsque les chiens se furent tus. C'est Jacques qui parla le premier. « Mais les chiens auraient vu passer le fantôme d'André dans le parc ou glisser le long d'une fenêtre du corridor, qui n'aurait pas mieux aboyé pour ma peur, dit-il. Oh, je voudrais bien que cette nuit fût achevée. » Je n'en puis plus. La lumière seule du jour me guérira. Eh bien, secoue-toi un peu en attendant la lumière du jour. Tu voulais aller travailler. Tu dois avoir des tas de choses à faire si nous voulons partir demain. Descendons ensemble dans tes bureaux, veux-tu ? Supplia-t-elle. Oh, ah, ça non ! Ça, par exemple, non ! Je ne veux pas sortir avant le jour dans les corridors. Mais c'est effrayant ce que je vais te dire, mais j'ai peur de le rencontrer. Écoute, ah, écoute cette fois, entends-tu? Entends-tu? Cette fois, elle trembla, elle aussi, elle répondit à voix basse, oui, silence, j'entends. Et 2 minutes, ils restèrent ainsi, ne bougeant pas plus que des statues. Alors, comme il n'entendait plus rien, ni l'un ni l'autre, elle dit « C'est vrai qu'il y a comme un bruit de cliquetis de chaîne. Ah, tu vois, oui, mais je ne suis sûr de rien. Le bruit ne s'est pas renouvelé. Et puis, après tout, il est peut-être très naturel. Nous en chercherons la cause demain, et nous en rirons peut-être après l'avoir trouvé. » C'est un bruit qui peut venir du dehors, un gond de porte qui grince, la chaîne d'un cadenas balancé par le vent. Il n'y a pas de vent, dit-il. Comme si le ciel eût voulu lui donner un immédiat démenti, le vent s'éleva aussitôt, et ils furent stupéfaits d'entendre si vite sa voix lamentable aboyer aux fenêtres et s'engouffrer dans les vastes cheminées. Et les chiens se remirent dans le même moment à hurler à la mort. Et ce fut un concert si triste que Jacques se boucha les oreilles. Mais tout à coup, Fanny lui arracha les mains des oreilles. « J'ai entendu le bruit de chaînes, » dit-elle. « Et ce bruit est dans l'appartement. Je te dis que quelque chose a remué dans ta chambre. »« Ah, c'est toi maintenant, c'est toi. Tu vois que je ne suis pas si fou. C'est le fantôme qui se promène. Il est dans ma chambre. »« Où est le revolver ?» demanda Fanny, la gorge sèche, la voix sifflante. « Ah, oui, mon revolver, tu as raison. On sait jamais. Et si je vois le fantôme, tu sais, je tire dessus comme sur un chien. » « Je n'entends plus rien, mais certainement, reprit Fanny, qui maintenant croyait à un danger réel, certainement que quelqu'un a remué dans ta chambre. » « Attends, je vais chercher mon revolver. Il est dans le tiroir de la table du cabinet de toilette. C'est le revolver qu'André a laissé. Oh, je tirerai sur le fantôme avec son propre revolver. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça le fera peut-être fuir, » et il ricana, comme si déjà toute sa raison l'avait abandonné. Brusquement, il ouvrit la porte du cabinet de toilette. La pièce était plongée dans une demi-obscurité uniquement éclairée par le rayon lunaire. Après une courte hésitation, Jacques s'enfonça dans l'ombre, tendant les bras vers la table où il était sûr de trouver le revolver. Fanny l'entendit un instant tâtonner, ouvrir le tiroir. Puis il y eut dans la petite pièce la formidable explosion d'un coup de revolver, un cri terrible et la chute d'un corps. La jeune femme d'un bond fut dans le cabinet de toilette. Elle se heurta à un cadavre, celui de Jacques. Chapitre 21. Le mort ressuscité. Elle fut persuadée qu'il s'était suicidé. Mais au docteur Moutier et au professeur Jaloux, elle parla d'un accident. « Jacques, leur dit-elle, aura voulu prendre son revolver dans le tiroir de la table, et le revolver lui aura échappé, et le coup est parti, et l'aura frappé. » L'arme fut en effet retrouvée non loin du corps, sur le parquet. Pendant qu'elle donnait ses détails d'une voix égarée et entremêlée, ces explications de sanglots déchirants, les domestiques avaient porté le corps sur le lit de Fanny, et les médecins, après avoir coupé avec des ciseaux la chemise de Jacques, examinaient sa blessure. Ils constatèrent qu'elle était mortelle et que le malheureux du reste venait à l'instant de rendre le dernier soupir. La balle l'avait frappé au cœur. Quand elle sut qu'il n'y avait plus aucun espoir, la douleur et l'égarement de Fanny atteignirent au paroxysme. Elle se jeta sur cette dépouille encore chaude et l'appela des plus doux noms. Mais il ne répondit pas. Il était mort, mort, bien mort. Et cependant, elle ne pouvait le croire encore. En se tordant les mains, elle suppliait les deux princes de la science que le destin avait comme par miracle réuni chez elle cette nuit-là de faire des choses impossibles pour lui rendre son mari. Elle se rappelait ce que le docteur Moutier avait dit dernièrement et se souvenait aussi des singulières paroles prononcées par le docteur Tuffier. « Nous pouvons maintenant rendre la vie à mort, et si nous y prenons à temps. » Après avoir renvoyé les enfants qui étaient eux aussi accourus en criant, et jeté encore une fois à la porte Mademoiselle Hélier, qui dans une circonstance aussi extraordinaire aurait bien voulu se rendre utile et ne rien perdre de ce qui allait se passer, elle supplia les deux hommes de tenter l'opération. Mais ils n'avaient point l'air de comprendre. Et devant l'embarras du docteur Moutier, mis d'une façon aussi inopinée dans un moment aussi tragique au pied du mur, elle lui jeta avec une rage délirante « Charlatan, charlatan, vous êtes tous des charlatans. Vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites. » Moutier, qui venait d'écouter le cœur du mort au stéthoscope, se releva très pâle. « C'est bien, madame, votre mari est mort. Nous allons essayer de le ressusciter. » On venait justement de lui apporter sa trousse qu'il avait envoyée chercher à tout hasard dans sa chambre. Jaloux le regarda et murmura « Pourquoi pas, après tout ?» Déjà, l'opération l'enthousiasmait, car il voyait tout le parti à en tirer pour la médecine astrale, si par hasard elle réussissait. Mais auparavant, il fallait être absolument sûr que celui qu'ils allaient opérer était tout ce qu'il y a de plus mort. Lui aussi écouta le cœur au stéthoscope, pendant que le docteur demandait tout ce qu'il fallait, disposait ses linges, ses instruments et se lavait soigneusement les mains selon le rite aseptique. Jaloux se releva et, déposant le stéthoscope, dit « Oh, pour être mort, il est bien mort. Le dernier organe qui meurt, c'est le cœur. Quand le cœur ne bat plus, c'est la mort. Il est donc mort. Vous avez vu, Moutier, que la balle doit être entrée dans le ventricule droit. » « Mais vite, vite, vite !» suppliait Fanny, dont l'agitation les gênait et qu'ils voulurent éloigner. Mais elle promit d'être calme et le devint instantanément. En effet, après avoir juré, qu'elle se tuerait si le docteur ne parvenait point à rendre Jacques à la vie. L'opération commença. Les domestiques affolés s'étaient enfuis. L'idée que leur maître était mort et que les docteurs allaient tenter de le ressusciter, oh, les dépassait. La femme de chambre, Lydia, la cuisinière, se signait comme si le diable était venu habiter cette nuit-là le château. Quand Moutier enfonça son bistouri pour la première incision sur la peau, il pensait qu'il n'y avait pas plus de 5 minutes que son client avait rendu le dernier soupir. « Si j'ai réussi l'opération en 10 minutes, fit-il tout bas à Jaloux, il y aura du bon. » Jaloux, qui l'éclairait en tenant une lampe au-dessus de la poitrine de Jacques, lui dit « Attachez de la réussir en 5 !» Vous avez fait beaucoup de chirurgie autrefois. Oui, mais tout dépend de la place occupée par la balle. » Et ils ne se parlèrent plus. Jaloux, voyant Fanny effroyablement calme, lui confia la lampe et se disposa à aider son ami. Déjà, après avoir ouvert un volet sur la peau et avoir tourné cette peau comme on tourne la page d'un livre, Moutier était arrivé sur le grill costal. Jaloux lui passait les pinces hémostatiques destinées à arrêter toute hémorragie. Le docteur, armé du costotum, se mit à scier la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième côte, ouvrant ainsi un second volet qu'il tourna et rabattit comme le premier et sur le premier. Aussitôt, il incisa le péricarde, la membrane qui entoure le cœur, et arriva au muscle du cœur lui-même. Comme l'avait pensé Jaloux, la balle était allée se loger dans l'épaisseur du muscle du ventricule droit, après avoir lésé le nerf innervateur du cœur, si l'on peut dire. Le cœur, en effet, s'était arrêté de battre parce que ce nerf, qui a pour mission de dilater et de contracter tour à tour le cœur, avait cessé de fonctionner. Sans s'occuper d'abord de la balle, le docteur alla au plus pressé, c'est-à-dire au fonctionnement du cœur. Il enfonça sa main dans le péricarde et prit le cœur à pleine poigne, comme il eût fait d'une poire à vaporisateur, et lui imprima les mêmes mouvements de contraction et de dilatation. Le moment était si solennel pour ces hommes de la science, qui, avec la mort, allaient faire de la vie, que la respiration des trois vivants qu'ils étaient s'en trouvait comme suspendue. Ils attendaient, pour reprendre leur souffle, que le mort respirât. Les deux docteurs, avec une anxiété au moins aussi aiguë, aussi douloureuse, que l'angoisse purement sentimentale de la femme qui attendait la résurrection de l'être aimé. Le mouvement de contraction était des plus durs et répété régulièrement des plus fatigants, mais le docteur Moutier ne se lassait pas. Pas plus que dans certaines circonstances d'asphyxie, il ne s'était lassé d'opérer la traction rythmique de la langue. Et cependant, quelle différence entre les deux opérations! Avec celle-ci, il arrachait un vivant à la mort, mais avec celle-là, il rendait un mort à la vie. Et tout à coup, il lui sembla que la circulation revenait. Elle revenait! Elle revenait! Jaloux constata avec un cri de triomphe les battements de la radiale. Et Fanny eut une clameur sauvage d'espoir, car la face du mort se colorait. Alors, tout se passa avec une rapidité inouïe. De la pointe de son bistouri, Moutier fit sauter la balle de sa prison musculaire, puis se mit à recoudre la lésion, et le point de suture terminé, à refermer les volets de chair et d'os, les rappliquant l'un sur l'autre avec une précision mathématique qui devait permettre la suture rapide, presque immédiate. Et le mort continuait à respirer. « Madame, » dit Moutier à Fanny d'une voix tremblante, « votre mari revit. Si aucune complication ne se produit dans l'état du ressuscité, il sera tout à fait guéri dans 8 jours et pourra se promener dans 15. » Chapitre 22. Un sujet intéressant pour la science. À la suite de ces événements exceptionnels, Fanny fut prise d'une fièvre intense qui la retint 3 jours au lit, dans la chambre de son mari où on la soignait, cependant que le mort finissait de revenir à lui dans la chambre de sa femme. Les docteurs Moutier et Jaloux, qui continuaient d'observer leur ressuscité avec une curiosité scientifique bien compréhensible, redoutèrent que la châtelaine de la Roseraie fît une grave maladie. Mais il n'en fut rien. Fanny était douée d'un ressort qu'il ne soupçonnait pas. La 3e nuit, elle se retrouva assez forte et d'esprit assez lucide pour écouter avec profit la conversation des deux hommes de science qui, dans la pièce à côté, dont la porte était restée entr'ouverte, échangeaient leurs impressions sur l'état de santé du mort. « Moi, il m'effraie, » disait Moutier, « j'ai peur qu'il ne nous soit revenu de là-bas, tout à fait insensé. Son silence obstiné, l'élargissement de ses pupilles, l'espèce d'épouvante avec laquelle il regarde les choses et les gens autour de lui, le frisson qui le secoue au moindre bruit, au moindre frôlement, la terreur visible qu'il éprouve devant une porte qui s'ouvre, tout cela dénote un désordre inouï dans les facultés. Eh, mon cher, songez qu'il revient de loin. Au fond, nous ne savons pas, nous, d'où il revient. Mais lui, il le sait. Il s'en souvient certainement. Émis avec une grande énergie le professeur Jaloux. J'ai regardé ses yeux. Il semble encore plein de choses que nous ne voyons pas et qu'il a vues, lui. Comment, dans ces conditions, n'aurait-il point besoin d'un certain temps pour retrouver l'équilibre de ses sens d'homme vivant? Eh bien, mon cher, tant qu'il n'aura pas retrouvé cet équilibre, il faut le laisser tranquille. Jamais! Ce que vous proposez est peut-être très humain, au sens étroit du mot, mais tout à fait anti-scientifique, car, sachez-le, cet équilibre de ses sens d'homme vivant, il ne l'aura reconquis tout à fait que lorsque les choses de la mort qu'il a vues se seront effacées peu à peu sous l'image constante et continue des choses de la vie qu'il voit. Et alors, vous saisissez qu'il ne se souviendra plus de rien ou que son souvenir sera devenu tellement vague et lointain qu'il ne lui apparaîtra plus que comme un rêve sans consistance. Et nous, scientifiquement, nous serons volés. Voilà ce qu'il faut éviter. Il faut obtenir que cet homme parle pendant que ses sensations sont toutes fraîches. Et je ne m'en irai que lorsqu'il aura parlé. Et s'il continue à ne vouloir rien dire, il semble habité par l'épouvante, soupira Moutier. Vous êtes cruel. Ah, ça, mais mon cher, où voulez-vous en venir? Je voudrais que nous envisagions cette affaire d'une façon pratique et sans nous embarrasser d'hypothèses et d'espoirs qui ne feront que nous gêner pour la médecine astrale. Enfin, oui ou non, croyez-vous à la continuité de la personnalité après la mort? Oui, j'y crois comme Crookes y a cru. Eh bien, s'il y a continuité de la personnalité, il n'y a aucune raison pour que cet homme qui s'est promené un quart d'heure dans la mort ne nous dise pas ce qu'il a vu. Évidemment, c'est un entêté, fit Moutier avec un semblant de raillerie. Mon cher, vous paraissez enchanté qu'il se taise. C'est inimaginable, gronda Jaloux, sans cacher sa mauvaise humeur. Non, parlons sérieusement, reprit Moutier. L'événement paraît si formidable, si inconcevable. Non, il n'est pas inconcevable, interrompit Jaloux. Il est inhabituel, voilà tout. Inhabituel, d'accord. Eh bien, l'événement est tellement hors de nos habitudes que le vulgum pecus scientifique aura de la peine à ajouter foi à la parole d'un monsieur vivant qui lui raconterait comment la mort est faite. Je ne serais pas fâché, outre mesure après tout, qu'il se taise. Notre opération n'en paraîtrait que plus sérieuse. Ah, je me demande pourquoi, par exemple. Pourquoi? Parce que s'il avait répondu à vos questions précises sur le royaume de la mort, comme vous dites, et si nous avions répété vos questions et ses réponses, nous aurions passé pour deux fumistes qui abusent de la faiblesse mentale d'un malade. Ne suffit-il pas, à notre gloire, d'avoir fait revivre par le truchement de la chirurgie un mort? Non, cela ne me suffit pas. D'abord, c'est vous qui avez fait l'opération, et je prends maintenant la responsabilité d'en tirer tout l'enseignement qu'elle comporte. Mais je ne vous aurais jamais cru d'une pareille timidité. Vous faites revivre un homme, et vous vous éloignez de lui comme si vous veniez de lui raccommoder la jambe. Mais cet homme que nous avons appelé à la vie, vous entendez? Cet homme nous doit le secret de la mort. Oh, vous l'avez déjà tourmenté là-dessus, et il ne vous a jamais répondu. J'ai peur qu'il ne devienne fou, je vous le répète, et que l'on nous accuse de sa folie. En tout cas, puisqu'il n'a pas encore parlé, et que nous ne savons même point s'il se souvient de son état de mort. Allons donc, il ne pense qu'à cela. Mais laissez-moi donc finir ce que j'ai à vous dire. En attendant qu'il parle, je voudrais vous montrer le récit que j'ai fait pour la médecine astrale de l'opération. Il nous faut préciser encore quelques points. Venez dans ma chambre. Fanny les entendit s'éloigner. Elle se leva tout doucement, s'enveloppa d'un peignoir, et bien qu'elle se sentît encore bien faible, se dirigea vers la chambre de son mari. Elle en poussa la porte, et tout de suite perçut une sorte de gémissement rauque qui attira son regard du côté du lit où le mort convalescent était censé reposer. Une faible lumière éclairait la pièce. Fanny ne vit que les deux yeux ouverts extraordinairement sur son apparition à elle. L'inexprimable frayeur qui était peinte dans ses yeux, là, la fit hâter son pas vers le malheureux qui, à demi soulevé sur sa couche, la regardait venir. Il la reconnut, car comme elle lui tendait les bras, il s'y laissa glisser avec un effroyable soupir d'aise. Il devait l'attendre depuis longtemps. Cependant, la main de Jacques lui montrait la porte du cabinet de toilette, et Fanny se glissa jusque-là, se rendant compte qu'elle obéissait à ce geste. Le mort vivant voulait-il qu'elle fermât cette porte à cause du drame qui s'était passé dans cette pièce? Ou plutôt, Jacques tenait-il à ce que la garde malade qui était installée sur un canapé ne les vint point déranger? La garde dormait. Fanny ferma la porte et revint près de son mari. Alors Jacques étreignit Fanny et lui souffla à l'oreille ces mots qu'elle comprit tout de suite. « Je l'ai vu !» Elle lui prit son pauvre visage entre ses mains douces et tendres. Elle roula cette tête criminelle qui avait souffert pour elle sur sa poitrine compatissante et elle lui dit tout bas « Tais-toi, tais-toi, tu as été très malade. Si tu pouvais pleurer, mais pleure, mon chéri, pleure, cela te fera du bien. Ne pense plus à rien. Si tu veux guérir, il ne faut plus penser à rien. » Mais l'autre reprit, en tremblant comme un enfant dans les bras de sa mère, « Oh, tu le sais bien. Pourquoi fais-tu celle qui ne sait pas? Tu sais bien que j'ai été mort. Très malade, très malade. Mais tais-toi. Si tu m'aimes, tais-toi. Il ne faut plus écouter les docteurs. Ce sont des niais, des imbéciles, mon chéri. De vrais imbéciles qui sont vraiment plus malades que toi. Et je le leur dirai. Et je ne veux plus qu'ils te tourmentent. Du reste, je les ai écoutés tout à l'heure. Ils ne croient pas une seconde sincèrement que tu étais mort. Si tu ne veux pas mourir pour de bon cette fois, il faut rejeter une pensée aussi absurde. Tu entends, Jacques? Promets-le-moi. Nous mourrons fous tous les deux si tu ne me le promets pas. C'est simple. J'ai assisté à tout, moi. Est-ce que je crois que tu étais mort? Ils sont arrivés à temps et ont fait l'opération qu'il fallait à temps. Voilà tout. Voilà tout. Allez, tais-toi. Tais-toi. Oh, si tu savais. Si tu savais, gémissait le mort-vivant. Tu ne parlerais pas comme tu parles. Surtout ne me quitte pas, ne me quitte plus jamais. Ah, je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Maintenant que je sais, tu entends, je ne veux plus mourir, je ne veux plus les revoir, je ne veux plus remourir avant d'être repenti, d'avoir expié avant qu'il m'ait pardonné. Je ferai tout pour cela. C'est mon seul espoir, c'est ma seule pensée. Qu'il me dise, quand je le reverrai, qu'il me dise « Je te pardonne ». Oh, si tu savais, il est terrible, il est terrible. Et il a toujours sa blessure qui saigne. Mon chéri, tout ce que tu voudras, nous ferons tout ce que tu voudras. Surtout, nous partirons, nous irons loin d'ici, loin. si loin que tu ne le verras plus jamais, que tu ne l'entendras plus jamais parler, et qu'il ne te tourmentera plus. Oh, pourvu que je ne renvoie plus sa blessure qui saigne. Chaque fois qu'une porte s'ouvre, qu'un rideau remue, qu'un pas glisse sur le parquet, j'ai peur de le revoir se dresser devant moi avec sa blessure qui saigne. Maintenant que je l'ai vu dans la mort, je suis sûr qu'il ne cesse de rôder autour de nous dans la vie. Il ne quitte pas le pays, il ne quitte pas le château, ou bien il est chez Marthe ou auprès des enfants. Mais nous ne le voyons pas. Pour le voir, il faut avoir les yeux purs de Marthe ou les yeux purs des enfants. Car les enfants l'ont vu. Le petit François disait vrai. Il a vraiment vu son papa. Et c'est vraiment son papa qui l'a sauvé de l'asphyxie. Et Marthe disait vrai. Et cela se le voit, et nous ne le voyons pas. Nous avons de pauvres yeux qui ne voient rien du tout. Heureusement, heureusement. Je veux bien qu'il soit là autour de nous, qu'il veille sur ses enfants, comme c'est son droit, certes, mais qu'il ne m'apparaisse plus, non, non. Ou alors qu'il cache sa blessure. Écoute bien ce que je vais te dire, pour te faire connaître ces choses dont nous avons eu tort de rire du temps de ma vie criminelle. Un mort peut encore apparaître à un vivant, même si ce vivant ne l'a pas mérité quand ce vivant va mourir. C'est ainsi que je l'ai vu, moi, avant de mourir, juste le temps qu'il lui a fallu pour prendre mon revolver dans le tiroir devant moi et pour me tuer. Il m'a tué parce qu'il a cru que j'allais faire du mal à ses enfants. Bon, je te dis comme c'est arrivé, en même temps que j'ai aperçu la figure menaçante à la tempe saignante, j'ai entendu le coup et je suis tombé foudroyé, mort. Fanny n'essayait même plus de retenir la divagation de Jacques, ou ce qu'elle croyait être fermement une divagation. Elle retenait cette pauvre tête, ce pauvre front embrasé contre sa joue, et elle la rafraîchissait en vain de ses larmes. Et elle ne doutait pas qu'il eût complètement perdu la raison. Son mari était fou. Elle tenta bien de lui faire comprendre que c'était lui qui avait tiré le coup de revolver contre lui-même pour se débarrasser de l'atroce pensée du crime qui pesait trop douloureusement à son cerveau, et peut-être aussi de la vision du fantôme qui le poursuivait, image inventée par son remords. Mais il jura sur le Christ qu'il n'avait pas voulu se tuer et que c'était André lui-même qui l'avait tué. Il y a des circonstances où les morts peuvent toucher, soulever, remuer des objets comme les vivants. C'est connu, même chez les vivants. La science ne le nie plus. William Crookes, avec ses morts, en a fait bien d'autres. Mais ayant dit cela, sa tête s'apesantit, et il s'endormit dans ses bras. Fanny resta ainsi plus d'une heure sans bouger. Elle n'avait jamais aimé autant cet homme que depuis qu'il endurait de tels supplices dont elle était la cause première. C'est pour elle qu'il avait tué. C'est à cause d'elle que les tenailles du remords lui déchiraient le cœur et le cerveau. Mais elle le guérirait, oui. Elle le guérirait par la fuite et par l'amour. Il s'aimerait sous des cieux de joie et de lumière que ne fréquentent point les fantômes du Nord. Elle le sauverait de la torture psychologique que lui infligeaient ces deux monstres de médecins. Elle le sauverait des hantises de Marthe et des tables tournantes de Mademoiselle Hélier, et de tout, loin de la malle. Au fond, elle était persuadée que c'était la malle qui était cause de toutes ces extravagances. La malle était trop près. Son voisinage impressionnait tout le château, le parc, tout le pays jusqu'au bord de l'eau, jusqu'à la petite maison du bord de l'eau. Jacques devait, si près, en subir l'influence constante et mieux, l'attirance. S'il allait quelquefois dans le garage, s'il descendait dans la cave sans qu'il y fût forcé par rien absolument de la vie extérieure, c'est qu'il ne pouvait résister au besoin de se rapprocher de la malle, de la sentir sous ses pieds avec le cadavre. Fanny comprenait cela. Elle-même pensait bien souvent à la malle. Et par instant avait des envies surprenantes, inouïes, des envies qu'il lui fallait combattre avec acharnement, de retourner dans la cave et de piétiner la terre au-dessus du mort. Eh bien, il s'en irait loin de la malle, loin des brumes à fantômes, dans les pays chauds, à Naples, à Capri, à Sorrente, sous les orgers. Et il redeviendrait fort. Là-bas, on ne craint pas les morts. On se promène parmi les tombeaux fleuris. Les morts sont les amis des vivants et les laissent bien tranquilles. Oh, ce n'est pas comme dans le Nord où ils passent leur temps à vous faire peur. Elle regarda Jacques. Il paraissait plongé dans un sommeil de plomb quand, peu à peu, sa respiration se fit rauque et irrégulière. Et enfin, il s'éveilla en sursaut, les yeux hagards, retenant de ses mains fébriles sa femme effrayée. Fanny, Fanny, ah mon Dieu, regarde, regarde derrière les rideaux de la fenêtre. Je t'ai dit qu'il a bougé. Entends-tu le bruit de chaînes derrière le rideau de la fenêtre? Mais je te dis qu'il est là. Tiens, tiens, il bouge. J'ai vu sa main qui soulevait le rideau. Entrez, et derrière le rideau. Fanny essayait en vain de le faire taire. Il répétait en claquant des dents. Mais je te dis que j'ai vu sa main. Mais je t'en supplie, va voir, soulève le rideau. Il se cache derrière le rideau. Il parlait avec une telle conviction et un tel effroi qu'elle en fut elle-même ébranlée et qu'elle s'en fut au rideau, autant pour elle que pour lui. De fait, il lui parut que le rideau tremblait, n'avait point son immobilité naturelle. Frissonnante, les bras tendus, elle avança. Mais par une extraordinaire coïncidence, voilà que tout à coup, et d'un seul coup, la petite lampe qui éclairait leur double angoisse s'éteignait comme si on venait de souffler dessus, et ils furent plongés dans l'obscurité. Alors Jacques poussa un cri terrible, et Fanny, ne sachant plus ce qu'elle faisait ni où elle allait, se heurta au meuble et renversa un petit guéridon qui supportait un service de nuit en cristal. Il s'écrasa et se brisa sur le parquet avec un bruit inouï. En même temps, la jeune femme sentit un souffle glacé qui lui passait sur le front et dans les cheveux, et la fenêtre s'ouvrit toute seule d'un mouvement brutal qui rejeta la vitre contre le mur. Jacques râlait et la porte de la chambre s'ouvrit. La garde-malade apparut épouvantée. Un peu de lumière venue du cabinet de toilette éclaira ce désordre et les deux docteurs parurent. La garde ralluma la lampe malgré le violent courant d'air qui s'engouffrait dans la pièce. Fanny, rendue à la réalité de ses sensations par le souffle même de la nuit qui l'avait affolée, se rendit compte que toute cette fantasmagorie se résumait dans le fait d'une fenêtre mal fermée qui s'ouvre sous la poussée du vent, et elle alla elle-même fermer cette fenêtre. Quand Jacques, rejeté au fond du lit, retenant d'une main tremblante les couvertures sous sa face rongée par la terreur, suppliait les docteurs de le débarrasser des morts. « Faites que je ne les vois plus, » gémissait-il. « Mais pourquoi m'avoir retiré de la mort si vous ne m'avez pas sauvé des morts ?»« Soyez tranquille, il y en a, il y en a. Ah, vous voulez savoir si je les ai vus ?»« Eh bien oui, je les ai vus. Je les ai vus comme je vous vois et je les vois encore. » La maison en est pleine, et la forêt, et la vallée. Si vous croyez que les morts quittent les vivants comme ça, ils sont derrière toutes les portes, ils guettent à toutes les fenêtres, ils vous attendent dans le creux des chemins, vous ne vous en doutez pas. Mais je les ai vus, moi, pendant que j'étais mort. Je les ai vus, penchés à l'oreille des vivants et leur soufflant des conseils terribles pour le bien et pour le mal. Et les vivants ne s'en doutent pas. Les morts conduisent les vivants par la main, et les vivants ne s'en doutent pas. Non, non, s'ils savaient, ils se méfieraient. Les vivants disent qu'ils ont des pressentiments. Il n'y a pas de pressentiments. Il y a le souffle d'un mort dans l'oreille. Il y a la main d'un mort qui vous conduit vers le bonheur ou vers la catastrophe. Car les morts, je vous le dis car j'ai vu cela, moi, les morts restent incroyablement mêlés aux vivants pour les aimer ou les haïr. Il y a des morts terribles dont il est à peu près impossible pour un vivant de se débarrasser. Les vivants ont tort de ne pas regarder de plus près dans leur ombre. Ils y verraient les choses que j'ai vues, moi, et ils se méfieraient. Et les vivants seraient moins fiers de se promener dans la vie, assurément. Oh, je vous en prie, messieurs les docteurs, je vous en conjure, chassez les morts, chassez les morts, chassez les morts. Non, allez-vous-en, ordonna brutalement Fanny au docteur. Vous voyez bien qu'il délire. Vous êtes des criminels, vous l'avez rendu à la vie pour le supplicier. Vous avez torturé sa pauvre âme, allez-vous-en. Et Fanny poussait les deux médecins spirites en les jetant hors de la chambre, en les injuriant jusque dans le corridor. Elle revint près de Jacques qui paraissait un peu calmé et qui lui dit « Oh, cela m'a fait du bien de me débarrasser de tout ça, que j'avais dans ma pauvre tête. Crois-tu que je leur en ai dit? Ma foi, je leur ai dit tout ce que j'ai vu, ni plus ni moins. J'ai eu bien soin de ne pas leur parler d'André. Oh, ça, je ne peux pas en parler. Il faut garder ça pour soi, tout seul. » Un remords pareil, à cause du petit Jacques, qui n'est responsable de rien, le pauvre ange, et de toi, ma chère Fanny. Dans sa chambre, Moutier disait au professeur Jaloux, « Oh, mon cher ami, nous ne pouvons plus rester ici. Ce malheureux est peut-être fort intéressant, mais encore deux séances comme celle-ci, et nous n'aurons plus qu'à le... conduire à Charenton, sans compter que nous pourrions bien y rester nous-mêmes. Du reste, on ne nous souffrira plus ici, et autant que possible, il faut éviter un scandale que ne manquerait pas de déchaîner Madame de la Bossière, si vous insistiez. De toute façon, moi, je n'en suis plus. Je vous dirais même que je ne suis pas exempt du remords. Enfin, songez que la médecine astrale exige notre prompt retour à Paris. C'est bien, nous allons nous en aller. Mais je le regrette, fit Jaloux pensif, car cela devenait intéressant. Croyez-vous qu'il ait réellement vu tout ce qu'il nous a raconté? Mais, mon cher, cela correspond avec notre système. Oui, c'est bien ce dont je me méfie. Enfin, bougonna Jaloux, vous ne croyez pas que cet homme qui revient de la mort invente pour notre plaisir ? Oh non, il n'invente pas, il se souvient de ce qu'il a vu pendant qu'il était mort. Non, de ce qu'il peut avoir lu avant sa mort. Jaloux sursauta. Mais avec votre système à vous, s'écria-t-il, nous n'avancerons jamais d'un pas. Mon cher, le doute est scientifique. Et croyez-moi, nous ne paraîtrons vraiment forts qu'en ne cachant à personne que nous nous défions de nous-mêmes et des autres. Mais tout de même, même en doutant et en ne dissimulant pas notre doute, nous avons là de quoi faire avec l'opération. Et ce que ce mort nous a raconté, un fameux fascicule pour la médecine astrale. Et une belle conférence, ajouta Jaloux. Partons donc, mais nous ne pourrons laisser ces gens sans soins. Oh, je réponds de Jacques, dit Boutier, mais nous passerons par Juvisy et nous lui enverrons un docteur de ma connaissance. Voici le petit jour, faisons nos valises. Avant de partir, ils laissèrent une lettre pour Madame de la Beaussière, dans laquelle ils prenaient fort dignement congé. En somme, s'il n'avait pas été là, M. de la Beaussière serait encore mort. Fanny avait fait donner des ordres au chauffeur pour qu'il se mît à la disposition de ces messieurs dès la première heure du jour. Comme l'auto descendait sur Juvisy et qu'ils arrivaient près de la rive, non loin de la petite maison du bord de l'eau, Moutier ordonna l'arrêt. Il venait d'apercevoir, au coin du petit bois de Tremble, la silhouette falote de Marthe Saint-Cyrmain. Elle se tenait là comme si elle l'attendait, comme si elle était sûre qu'elle le verrait passer. « Qu'est-ce ? » demanda Jaloux. Bien, c'est cette Marthe dont je vous ai parlé. Vous savez, la Marthe aux fantômes. Descendez. » Ils s'enfuirent tous deux vers elle. Elle les salua de la tête et leur dit, sans émotion apparente, « Alors, c'est vrai que vous avez réussi à le faire revivre ? Je n'ai pas vu André depuis... Oh, je voudrais bien avoir des nouvelles. » Les deux hommes se regardèrent. Oui, « c'est vrai, dit le docteur Moutier, que nous avons été assez heureux pour sauver M. de la Beaussière. Mais comment savez-vous que nous l'avons fait revivre ?»« Mais c'est André qui me l'a dit. Ah, vous avez donc revu votre apparition ?» Oui, quelques minutes après l'accident auquel André a assisté, il m'a dit que vous et le professeur Jaloux essayez de faire revivre le mort. Vous êtes sûr que c'est André qui vous a dit cela ? Demanda avec une grande douceur le docteur Moutier. Vous savez ce que je vous ai dit, mon enfant, dans votre état, il faut vous méfier de vos yeux et de vos oreilles. Je croirais plutôt, moi, que le bruit de l'opération est venu jusqu'à vous par, mon Dieu, par les domestiques qui ont certainement jasé. Votre vieille servante en a peut-être entendu parler. Mais je ne parle plus à ma vieille servante, je ne parle plus à mon mari, je ne parle plus qu'à André, quand André le veut bien. Il m'a tout dit de ce qu'il a vu et entendu. Et il est venu me voir parce qu'il savait que je l'attendais. Il m'a dit, le docteur Moutier a dit tout bas au docteur Jaloux, si je réussis l'opération en 10 minutes, il y aura du bon. Est-ce vrai, oui ou non ? Et comme il la regardait complètement médusé, elle leur tourna tranquillement le dos et à pas lents rentra dans la petite maison du bord de l'eau. Ce jeudi-là, les conférences du professeur Jaloux avaient lieu tous les jeudis. La petite rue qui conduit au porche majestueux de l'école des sciences politiques et sociales fut envahie de bonne heure par toute une bande de carabins qui ne cessèrent de se renvoyer les lazzis les plus grossiers relatifs à la théorie probable de la suggestion des morts et aux conférences philosophiques et expérimentales sur la médecine de l'âme. L'âme, il n'y croyait pas, disait-il, pas plus du reste qu'il ne croyait à l'histoire de ressuscité du docteur Moutier. Pour eux, le bonhomme dont il était question était encore vivant quand on l'avait opéré, et l'examen du cœur au stéthoscope ne leur suffisait pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse nous prouver réellement qu'un homme est mort, disait-il, c'est la rigidité cadavérique. Eh bien, cette rigidité n'a pas été constatée. Bien mieux, elle ne pouvait pas l'être. Elle ne le pouvait pas par la raison bien simple que l'opération ne pouvait réussir que si elle était faite sur un corps encore chaud. En somme, avec l'opération de Moutier, concluait-il au milieu des rires et des cris d'animaux, on ne peut ressusciter les morts que lorsqu'ils sont encore vivants. Les mauvaises dispositions des étudiants à l'égard du conférencier mondain n'étaient point nouvelles. Aussi, dans la crainte d'une manifestation plus tapageuse qu'à l'ordinaire, la belle madame de Bitigny, l'égérie du professeur Jaloux, avait-elle pris ses précautions. C'était elle qui était allée trouver le directeur administrateur de l'école et avait obtenu que pendant la conférence, le porche de l'entrée ne fût pas ouvert. Les élèves sérieuses, les jalouses, seraient avertis et pénétreraient dans l'établissement et dans la salle par un chemin inaccoutumé. De même, madame de Bitigny avait prévenu quelques rares journalistes qui étaient de ses amis, chroniqueurs de salon, bons importants de la presse bien pensante. Quant aux petits reporters, ils restèrent avec les carabins à se morfondre dans la rue, jusqu'au moment où ils s'aperçurent qu'ils étaient joués, puisqu'ils ne voyaient apparaître aucune de ces belles madame à panache, aucun de ces équipages, aucune de ces livrées, qui étaient là ordinairement bien avant l'ouverture de la conférence du professeur à la mode. Les carabins se dispersèrent dans les brasseries ou s'en allèrent au cours, mais les reporters cherchèrent le moyen d'entrer malgré tout, et ils le trouvèrent naturellement. Quand ils furent parvenus à forcer la porte de la haute tribune, le professeur Jaloux prononçait ces phrases mémorables qu'ils eurent garde d'interrompre. Mesdames et messieurs, vous comprenez que le docteur Moutier et moi n'avons pas attendu les objections que nous lisons depuis quelques jours dans quelques feuilles scientifiques pour nous les faire à nous-mêmes. On nous dit que la rigidité cadavérique, la décomposition sont des preuves absolues de la mort, et nous ne faisons aucune difficulté d'avouer que ces preuves nous font dans la circonstance défaut. Mais en avons-nous réellement besoin? Je dirais non. Non, avec le docteur Tuffier et avec tous ceux qui pensent qu'un homme dont le cœur ne bat plus, dont le sang depuis un quart d'heure ne circule plus, est mort. La décomposition, la rigidité cadavérique sont en elles-mêmes moins des preuves que des conséquences de la mort qui les a précédées. Mesdames, messieurs, le stéthoscope en main, nous avons constaté la mort de cet homme. Et voilà celui qui l'a fait revivre. Disant ces mots, le professeur Jaloux, avec un de ses gestes pleins d'autorité et de grâce dont il avait le secret, désigna à sa droite le brave docteur Moutier qui, écarlate et modeste, baissait les yeux. Aussitôt, les jalouses, comme si elles n'avaient attendu que ce signal, faisait un triomphe au rédacteur en chef de la médecine astrale, criaient « Bravo, bravo » à tue-tête, agitaient leurs aigrettes, secouaient leurs panaches et tapaient l'une contre l'autre leurs petites mains gantées et frénétiques. « Mesdames et messieurs, » continuait Jaloux en remuant le petit doigt en l'air, sa cuillère dans le verre d'eau sucrée, un sentiment d'humanité dont nous n'avons pu nous départir ne nous a peut-être point permis de tirer d'un tel événement tout l'enseignement expérimental qu'il comporte. Cet homme était allé chez les morts. Qui avait-il vu? Pour le savoir, il nous fallait l'interroger. Mais l'état manifeste d'épouvante dans lequel il se trouvait au retour d'un pareil voyage et la faiblesse d'un organe dont la lésion récente encore n'avait pu entièrement se cicatriser, nous ordonnait d'être prudents. Ce n'est qu'au bout de quelques jours que nous avons pu recueillir un témoignage d'outre-tombe qui nous a, mon confrère et moi, bouleversés. Sans doute, mesdames et messieurs, devons-nous, dans une circonstance aussi exceptionnelle, faire toutes nos réserves. Sans doute devons-nous être les premiers à nous garder, si j'ose dire scientifiquement, contre les conclusions trop hâtives d'une expérience qui nous émeut d'autant plus qu'elle semble corroborer d'une façon définitive des théories basées en partie sur l'hypothèse. Tout de même, quand on saura que le sujet est le plus sceptique des hommes du monde, en même temps qu'un scientifique et qu'un commercial des plus pratiques et des plus terre-à-terre, se riant de nos préoccupations et de nos travaux, et nous traitant facilement de vieux toqués, et vous, mesdames, de jeunes folles, j'estime que notre devoir scientifique est de prendre en considération la transformation radicale de son individu au moral au sortir de l'opération, et pourquoi ne le dirions-nous pas, puisque c'est notre ardente conviction, de la mort. Les premières paroles du ressuscité, retenues longtemps sur ses lèvres, par la terreur même qu'à les prononcer et par l'effroi de la tombe, ces premières paroles, dis-je, ont été pour nous crier qu'il avait vu les morts. Ah, ces mots, un grand frisson parcourut toute la salle. De petits cris d'effroi, satisfaits, s'échappèrent de petites bouches. Une aussi importante nouvelle faisait se pâmer toutes ces dames. Tour à tour, elles se sentaient elles-mêmes mourir et renaître aux accents suaves et tout de même effrayants du divin Jaloux. Avec lui seul, elles eussent voulu visiter le ciel, mais avec lui seul aussi, elles consentaient à descendre en enfer. Suspendues à son verbe élégant et sacré, elle se promenait dans le royaume des morts, en attendant l'heure des morts. Oui, mesdames, continuait Jaloux, il ne disait même plus et messieurs, tant les messieurs, qui sont toujours un peu frondeurs et se plaisent à faire les esprits forts, l'intéressaient peu en un pareil jour de triomphe. Oui, mesdames, les premières paroles de l'opéré ont été pour nous tracer une fresque tragique de la vallée qu'il habite et telle qu'elle lui est apparue dans la mort, avec ses vivants et avec ses morts. Ceux-ci entourant ceux-là de leurs tourbillons invisibles, âmes impures, condamnées à faire leur purgatoire parmi toutes ces choses qu'elles ont tant aimées et qui ne se souviennent même plus d'elles, esprits alourdis par les liens matériels, d'une existence précédente entièrement consacrée à la chair et incapable par conséquent de s'élever jusqu'aux sphères sublimes qui se balancent sous les pieds de la beauté, c'est-à-dire de la divinité. Jaloux, d'un coup d'œil, avait mesuré tout son succès. Avec quel geste d'archange il emportait au septième ciel toutes ces belles proies soupirantes. Les sphères qui se balancent sous les pieds de la beauté. Oh, ma chère! Oui, mesdames, voilà ce que le docteur Moutier et moi avons cru saisir dans la lamentation, la malédiction, le gémissement, l'évocation terrible issue de la bouche tourmentée d'un nouveau Lazare qui a vu et qui se souvient. Mes chers disciples, de ce qu'il nous semble avoir enfin la preuve de la réalité d'un monde spirituel que nous avons osé décrire, nous, sans l'avoir vu, et nous avons osé mesurer l'influence dans notre théorie du pressentiment, de l'avertissement et de l'entraînement, nous ne montrerons point un ridicule orgueil. Nous nous rappellerons que ce n'est point avec l'aide de notre raison seule que nous sommes arrivés à la conception du monde invisible, mais en tenant compte des expériences spirites de nos illustres prédécesseurs et des confidences des esprits par le truchement du médium. Aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, dont j'ai été le témoin stupéfait et enthousiaste, nul n'a plus le droit de traiter d'hallucination et de trucage les visions scientifiques et photographiées d'un Crookes. Mesdames, messieurs, les morts vivent. Le docteur Moutier et moi, nous ne désespérons pas de vous faire entendre cette grande parole par notre mort lui-même, dès qu'il sera devenu un peu plus calme et, disons le mot, un peu plus traitable. La dernière fois que nous l'avons vu, en effet, il était comme enragé, et nous vous assurons qu'il ne nous a marqué aucune reconnaissance du service que nous venons de lui rendre. Mais c'est un homme du monde aussi, je suis certain, que le moment n'est pas loin où il se rappellera ce qu'il doit à la science spirite en général et à la chirurgie astrale du docteur Moutier en particulier. Ici, l'orateur s'était arrêté pour permettre à l'auditoire de l'applaudir. Le gentil tumulte des petites mains gantées remplit à nouveau joyeusement la salle, cependant qu'une vieille demoiselle, que l'on écrasait littéralement dans un coin, protestait avec force, disant qu'elle n'était point venue là pour son plaisir et demandait la parole. Les jalouses, outrées d'une pareille prétention, et lui criant que la conférence était point contradictoire, voulaient la jeter à la porte. Mais la vieille demoiselle se défendait avec acharnement. Le professeur à la mode finit par s'émouvoir d'une agitation aussi insolite, et le docteur Moutier demanda très haut, sur le ton le plus sévère, « Qu'est-ce qu'il y a? De quoi s'agit-il? » Alors on entendit la voix aiguë, frêle et désespérée de la vieille demoiselle que l'on écrasait dans un coin. C'est moi, docteur, moi, mademoiselle Hélier. J'arrive de la Roseraie. J'ai vu madame Saint-Firmin. Le mort est encore revenu. Taisez-vous, on vous dit de vous taire. Mais non, non, je ne peux plus me taire. Le mort a parlé. Il a été assassiné. Oh, qu'on me jette à la porte cette vieille folle, ordonna exaspéré l'excellent docteur Moutier. S'il ne s'était retenu, il se fût jeté sur elle et l'eût étranglée. Il ne manquait plus que cet imbécile, avec ses histoires de revenants et de tables tournantes, pour jeter le discrédit et le ridicule sur une opération chirurgicale qu'il avait déjà eu tant, tant de mal à défendre contre les audacieuses fantaisies du professeur Jaloux lui-même. Car le docteur Moutier n'était qu'à moitié satisfait de la façon dont son collègue avait traité cette affaire. Il avait dit au professeur, « Oh, je vous en supplie, parlez par hypothèse, n'affirmez rien. Le fait de l'opération en lui-même est assez intéressant pour que vous ne soyez pas tenté d'en tirer vous-même d'inquiétantes conclusions spirites. Ceux qui croient au spiritisme en tireront ces conclusions tout seuls, et ceux qui n'y croient pas encore seront amenés à y croire, ou tout au moins à réfléchir. Or, il n'avait pu empêcher Jaloux de profiter d'une pareille occasion pour faire le joli cœur avec son royaume des morts. Enfin, heureusement que Jaloux n'avait pas fait intervenir là-dedans, comme il y était décidé tout d'abord, le fantôme qui avait assisté à l'opération et qui était venu la raconter à la dame du bord de l'eau. Ah, du coup, il n'aurait pu manquer que ça. C'est que Jaloux y croyait dur comme fer, lui, à ce fantôme-là. Songez donc, le fantôme avait répété à la petite dame une phrase que le docteur Moutier avait prononcée à l'oreille de Jaloux, et que Jaloux aurait été seul à entendre. Qu'est-ce qu'il en savait, lui, Jaloux, qu'il avait été le seul à entendre cette phrase-là? Est-ce que Madame de la Beaussière, qui était là, n'avait pas pu l'entendre, elle aussi, elle a répété? Et les domestiques, est-ce qu'ils ne sont pas faits pour écouter derrière les portes? Oh, ce Jaloux, un orateur, oui, ça, c'était un orateur. Mais un homme de science, jamais de la vie. Moutier ne fut tranquille que lorsqu'il fut sûr que cette grande bringue déliée avait été expulsée et qu'il n'avait plus à craindre la publicité de ses contes fantastiques. Il n'avait pas remarqué qu'en même temps que la vieille demoiselle quittait la salle, un peu plus brusquement qu'elle ne l'eût désiré, la tribune du premier étage se vidait de tous ses reporters.